Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au cœur du Lotus. Dans notre édition Femmes inspirantes, c'est avec une immense joie qu'aujourd'hui j'accueille Morgane, la tambouille d'amour que vous connaissez peut-être sur les réseaux. Morgane, c'est pour moi une femme incroyable, quelqu'un pour qui j'ai eu un véritable coup de foudre, amical, humain. Et je suis vraiment très honorée qu'elle ait répondu à l'appel. Dans cet épisode, aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours. Et j'espère que ça vous inspirera autant que moi. Ça m'a inspirée. Bonne écoute.
Bonjour Morgane.
Coucou Adi.
Merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui et d'être présente et de m'accorder du temps, de nous accorder du temps pour nous parler de ton parcours.
Ben merci à toi de m'inviter. Je suis ravie.
Et ben moi aussi, je suis ravie de pouvoir partager au monde un petit peu qui tu es, parce que je trouve que tu es une personne extraordinaire. Je me
Merci.
souviens de notre première rencontre à la gare de Moret-sur-Loing.
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était là. Ouais, je m'en souviens aussi. C'était très percutant de te voir. Tout de suite, je me suis dit, waouh, quelle magnifique créature.
Pareil. On se retrouvait à l'époque pour covoiturer, pour aller sur une retraite de femmes où on était toutes les deux intervenantes pour des femmes tatoueuses à Barjol chez Sandra. Et on n'a pas vu le temps passer, quoi, de la Seine-et-Marne jusque dans le Var. On a papoté pendant des heures et des heures. Et
Ouais, et
tout
puis
ça, la retraite.
c'était un moment tellement puissant aussi, ces quelques jours là-bas.
Ouais, c'était intense. C'était juste après le Covid, alors se retrouver humainement comme ça, entre femmes et à partager des choses dans la proximité, c'était beau.
Ouais, je me souviens de cette parenthèse qui un vrai ressourcement, quoi.
Et puis, ça a été pour nous, pour moi en tout cas, coup de foudre amical de ta personne direct, quoi.
Ouais, et puis ce qui est très amusant, c'est qu'on se retrouve après à être quasiment voisine par le hasard qui fait bien les choses un an après.
Exactement, exactement. Et là, tu t'es un peu éloignée, mais tu reviens.
Oui. Comme
Et
quoi,
tu reviens.
on retourne toujours à sa tribu.
Exactement. Moi, je suis ravie que tu reviennes dans la tribu de Seine-et-Marne.
Mais moi aussi.
Et du coup, tu en as des choses à nous dire sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais te laisser un petit peu nous parler de ton parcours, de ton chemin de vie, de ce que tu as vécu, de toi toute petite jusqu'à maintenant et tout ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui et que tu en es où tu en es aujourd'hui.
Bah merci pour cet espace que tu m'offres. Je ne sais pas si j'ai envie de commencer par ordre chronologique. Je pense quelque chose d'assez marquant pour moi et qui est en lien avec ce qu'on vient juste de partager, c'est qu'au moment où on s'est rencontrés, j'étais dans un moment très fort de ma vie puisque j'habitais sur un écolieu en collectif. C'était juste après le Covid. On venait avec mon compagnon et mon bébé de 2 ans de se lancer dans ce nouveau projet de vie où, voilà, on voulait tout changer. On voulait créer un lieu qui serait un modèle à la fois d'écologie et de manière de vivre pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, apprendre à prendre soin de la planète, à préserver notre monde. Et en fait, ça se passait hyper mal. C'était un grand moment de détresse et c'est pour ça que je pense que ce moment de notre rencontre a été aussi autant intense pour moi parce que ça a été une véritable bulle où j'ai senti que j'étais à nouveau moi-même et la présence de toutes ces femmes autour de moi et de toi notamment, hyper inspirante et surtout dans ce groupe où je me suis sentie bien, ça m'a rappelé en fait qui j'étais. Et ce qui est dingue, c'est que je me souviens que c'était en juin, fin juin, je crois. Et seulement quelques semaines après, le projet d'écolieu explosait. On déménageait en catastrophe, on retournait en Île-de-France où on avait vendu notre appartement pour pouvoir justement déménager en Bretagne. Ça a été, ça a été un grand moment de mon existence, où, un petit peu une plongée en enfer où, où le rêve s'effondrait, où j'étais à la fois confrontée à qu'est-ce que ça demande en fait de réaliser ses rêves en termes de courage, en termes d'abandon, de confiance et en même temps de résilience aussi de savoir reconnaître que ça marche pas, que c'est pas ça, qu'en fait le rêve c'était pas forcément comme on l'imaginait et que un projet sur papier c'est autre chose parfois quand ça s'incarne dans la matière. Et ça, je sais que c'est un événement qui m'a beaucoup forgée, puisque ça a été un grand tournant pour moi, à la fois dans ma vie professionnelle que dans ma manière de concevoir le monde. Ça a impacté évidemment ma santé mentale, mais aussi physique, et même voilà, comment on vivait dans notre famille, dans mon couple, dans ma parentalité. Ça a été un gros tournant ce moment où je t'ai rencontré. Et pour mettre ça dans le contexte, du coup, bah moi je m'appelle Morgane et je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout et qui m'écoutent, aujourd'hui je suis chef cuisinière et formatrice en cuisine végétale et bienveillante. Et c'était déjà le cas à l'époque. Ce qui a changé dans mon métier, c'est la manière dont je l'exerce et ce que je mets en fait dans la transmission de mon travail. Mes priorités aussi, elles ont changé suite à cet échec. C'était quand même un échec hein, de se lancer dans un projet d'écolieu et de repartir bredouille. C'était quand même, on peut pas parler de. Alors on peut parler d'apprentissage, de leçon de vie, mais ça reste quand même un échec. Et ça m'a aussi beaucoup appris en fait au niveau de bah, quand on touche le fond mentalement, ça nous montre beaucoup aussi sur qui on est, sur nos capacités à se relever. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert le breathwork, qui est une technique de respiration que je pratique et enseigne désormais, et qui a été pour moi au départ un outil en fait dont j'avais vraiment profondément besoin au moment où, à un moment où j'allais très très mal. C'est une technique de respiration qui permet vraiment de réparer notre mécanisme de respiration. Donc ça a plein d'impact hein, sur notre santé physique mais aussi émotionnelle puisqu'on peut libérer des émotions, des blocages, on peut aussi guérir des traumatismes. Et c'est une pratique qui m'a accompagnée tout au long de la dépression en fait que j'ai traversé suite à cet échec dans cet écolieu. Et ça a vraiment refaçonné ma manière d'exercer mon métier, puisque maintenant il y avait un nouvel outil. J'avais envie de mettre plus de place à cette pratique-là, à laquelle je me suis formée, du coup. Après 6 mois d'accompagnement où j'ai pratiqué, j'ai eu envie de me former. Et en pratiquant le breathwork, c'est une technique aussi qui nous amène dans des états de conscience modifiés, parfois très profond, très intense, semblable à ceux qu'on peut expérimenter dans des cérémonies avec des plantes, par exemple. Et donc on peut avoir des visions, des révélations, des sentiments de comprendre des choses, etc. Donc c'était extrêmement bénéfique pour moi. Et bien lors d'une séance, j'ai reçu le message de la part de tous les animaux qui ont eu une grande place dans ma vie, dans mon parcours de vie. De donner plus de place à la communication animale dans ma vie. C'est un outil auquel j'ai été formée vraiment par pur plaisir. J'avais vraiment aucunement l'intention de m'en servir ou d'en faire un outil professionnel. C'était par pure curiosité. Je me suis dit, comment ça, il y a des gens qui parlent avec les animaux comme Elisa de la jungle, vous voulez dire? C'est quoi cette histoire? Et j'ai découvert que ça existait, que c'était réel. Et pendant une séance de breathwork, j'ai reçu le message de « Mais en fait, tu sais faire ça, donc pourquoi tu l'utilises pas ?» Et donc, c'est venu encore une fois impacter ma manière d'exercer mon métier et aussi toutes mes croyances sur la vie, sur l'univers, sur les animaux. C'est vrai que depuis l'enfance, j'ai toujours été une grande amoureuse des animaux. J'ai eu beaucoup d'amis animaux. Ça peut paraître un peu étrange à entendre comme ça, mais par exemple, j'ai grandi avec une chienne qui a été extrêmement importante pour moi. C'était, à mon sens, comme une sœur. Et je ne faisais vraiment pas la différence, quoi, dans ma manière d'interagir avec elle, dans ma famille, dans l'amour que je lui portais. C'était une sœur. Et je pense que ça a vraiment façonné aussi qui je suis et même les choix qui ont mené au fait qu'aujourd'hui, je ne mange plus d'animaux et j'aide les personnes qui ont envie aussi de ne plus manger d'animaux et de préserver les animaux et la planète. Je pense que ça a été cette chienne qui s'appelait Douchka, peut-être la première pierre à l'édifice, tu vois, dans mon histoire. C'est elle qui a ouvert la voie, en fait, par rapport à comment je me suis construite dans ma vision de la vie, des animaux, des êtres vivants, dans ma perception. Et cet amour des animaux a mené à plein de décisions. La première, c'était évidemment d'arrêter de les manger. C'était vraiment quelque chose qui est venu hyper naturellement, quoi. C'est-à-dire, c'était une évidence. On n'a pas envie de faire du mal aux personnes qu'on aime, aux êtres qu'on aime. Et c'est arrivé très tôt dans mon enfance. Je me souviens d'avoir cette révélation, tu sais, de ce moment où tu comprends que, mais en fait, la viande qu'on mange, c'est les animaux qu'on voit dans les livres, dans les films, dans les histoires. Et ça, c'était un électrochoc pour moi, enfant. Et je me souviens que ma mère m'avait, de manière très intelligente, m'avait expliqué, lorsque je lui ai dit que je ne voulais plus, du coup, manger d'animaux. Elle m'avait dit, ça existe, il y a des gens qui ne mangent pas d'animaux, c'est possible. Néanmoins, dans la viande, il y a des protéines, il y a du fer. Ma mère, elle avait déjà beaucoup de connaissances à l'époque sur la nutrition, l'alimentation santé, tout ça. Et donc, elle me l'a expliqué comme ça, en me disant pourquoi on mangeait de la viande. Et en même temps, en me disant, il y a des gens qui n'en mangent pas, c'est possible. Par contre, nous, dans notre famille, on en mange pour ces raisons-là. Mais quand tu seras grande, tu feras ce que tu veux. Et du coup, ça a planté cette graine hyper profondément en moi. De quand je serai grande, je ne mangerai pas d'animaux. Et ça ne m'a pas empêchée d'être une énorme viandarde, de vraiment manger énormément de viande, énormément de charcuterie. Vraiment, je me considère toujours, d'ailleurs, j'allais dire, j'étais vraiment une bonne vivante, mais je me considère toujours comme une bonne vivante, c'est juste que je mange plus d'animaux, mais pour autant, j'aime toujours autant manger et me faire plaisir en mangeant. C'est même vraiment une des bases de mon approche de la cuisine et de ce que j'ai envie de transmettre. Comment on peut manger en se faisant énormément plaisir et comment on peut transformer notre rapport à l'alimentation et à l'action de cuisiner pour que ce soit des actions méga épanouissantes et même au service de notre bien-être, au service de qui on a envie d'être. Pour ce monde, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cœur, à nos valeurs. Et ça, je pense, c'était cette idée que ma mère m'explique. Bah, nous, dans notre famille, non, on mange de la viande, mais par contre, toi, tu feras ce que tu veux quand tu seras grande. Bah, ça a été, comment dire, une graine plantée qui a poussé, qui a pris son temps. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai déménagé en Angleterre, où j'ai été fille au pair pendant un an dans une famille qui était végétarienne. Donc là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, voilà, ça fait plus de 10 ans que tu grandis en te disant qu'un jour tu mangeras plus de viande. Là, tu es chez des gens, c'est leur mode de vie, profites-en. Ça a été d'une facilité déconcertante pour moi d'arrêter de manger de la viande, justement parce que bah, ils n'en mangeaient pas. Mais aussi parce qu'en Angleterre, ils ont 15 ans d'avance sur nous, hein, tout ce qui est végétarisme et véganisme, protection animale, considération des droits des animaux. Donc c'était vraiment hyper simple. Et revenir en France après ça, alors c'était en 2009, ça se faisait pas trop encore. C'était pas très très répandu le végétarisme et encore moins le véganisme. C'était même assez mal vu à l'époque, mais j'étais méga déterminée. Et en fait, en me renseignant, parce que du coup, j'étais beaucoup. Comment dire? On me posait beaucoup de questions, pas forcément de manière bienveillante d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui veulent manger moins de viande ou de manière plus saine ou de manière plus écologique peuvent connaître aussi. Ces espèces de questionnements parfois un peu déplacés de l'entourage, où on va beaucoup remettre en question ce que tu dis, où on va clairement te juger. Ben en fait, moi, comment je l'ai vécu à l'époque, ça a été vraiment une. Pour moi, chaque jugement, chaque discussion, chaque débat qui parfois m'était imposé, c'était une opportunité d'apprendre, c'était une opportunité de renforcer mes convictions. Et en fait, à chaque fois, même si parfois ça m'arrivait d'être acculée, d'être en manque d'arguments, par exemple, et ben en fait, j'allais rentrer chez moi et puis j'allais rechercher sur Internet. Ok, ben là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a amené un argument, je trouve ça pas inintéressant. Et ben j'allais regarder, trouver des autres sources d'informations, me rendre compte que finalement, ben, en fait, non, il existe des contre-arguments. Et finalement, ben, ça me rendait encore plus confiante dans ma démarche. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'époque, du coup, j'avais pas du tout pour ambition de travailler en cuisine, hein. Je suis arrivée à la cuisine de par le véganisme. Et à cette époque, moi, je voulais travailler avec les animaux. Et notamment, je voulais ouvrir un élevage de vaches laitières et faire du fromage éthique, parce que j'adore le fromage. Et je m'étais dit, je comprends pas ce qu'ils ont les véganes avec le fromage, je vois pas le problème. Moi, je vais ouvrir mon exploitation et je vais créer mon fromage végane, enfin mon fromage de vache, mais éthique. Et donc, je me suis lancée dans une formation pour devenir auxiliaire de santé animale, option animaux ruraux. C'est quelque chose que tout le monde ne sait pas à propos de moi. Et effectivement, je me suis formée pendant 2 ans. Dans vraiment cet objectif d'avoir un élevage de vaches et de faire du fromage. Et en fait, en suivant mes cours, c'est comme ça que je suis devenue végane. Il faut savoir que c'était des cours destinés à des personnes qui avaient voilà, l'intention de travailler dans des exploitations agricoles ou dans des cliniques vétérinaires, par exemple. C'était pas du tout censé être une propagande pro-végane, en aucun cas. Mais moi, en fait, en découvrant que ce soit les aides gouvernementales et les conditions qu'il fallait mettre en place dans son élevage pour pouvoir en bénéficier, les méthodes qui sont utilisées pour contraindre les animaux, les rythmes de vie, les durées de vie, les choses qui font que tu as le droit d'avoir des subventions ou pas. En fait, j'étais profondément choquée. Ça m'a vraiment mis une énorme claque. Bah parce que déjà, mon projet professionnel s'effondrait, mais aussi parce que ça m'a enlevé des œillères, en fait, hein, que j'avais à l'époque, sur ce que moi, je pensais à propos des animaux et de l'élevage, de comment on peut obtenir de leur part des produits. Et ça a été ouais, une grosse, grosse claque. Et donc, je suis devenue végane à ce moment-là. Ça a eu comme répercussion l'envie de faire plus pour les animaux. J'ai continué à travailler dans le milieu de la protection animale un petit peu. J'ai travaillé à la SPA, j'ai été palefrenière soigneuse parce que j'ai beaucoup monté à cheval quand j'étais jeune et les chevaux étaient des animaux très importants pour moi. Et sauf que bah voilà, les nouvelles connaissances que j'avais acquises vis-à-vis de l'intelligence animale, de leur capacité à ressentir des émotions, de leur similarité avec nous, de leur intelligence, leurs intelligences même, ben en fait ça a mis comme un filtre en fait sur mon regard qui faisait que je pouvais plus en fait avoir les mêmes activités, les mêmes attitudes vis-à-vis d'eux. Et après 1 an à travailler entre la SPA et soigner des chevaux, je me suis dit, mais en fait, c'est dur, c'est vraiment très très dur comme travail. Souvent, on soigne des animaux qui ne seraient pas malades s'ils arrêtaient de faire le travail qu'on leur a attribué, par exemple pour les chevaux en particulier. Hein. En fait, les chevaux dont je m'occupais, dès qu'ils arrêtaient leur activité et qu'ils étaient en vacances, ils allaient tous très bien. Dès que ça reprenait, boiterie, euphysème, problèmes respiratoires, etc. Et en fait, je me suis dit, mais je suis juste un pansement sur un problème beaucoup plus large. Et j'aide quelques individus, mais comment je pourrais faire pour décupler mon impact? Comment je pourrais faire en sorte d'aider beaucoup plus d'animaux? Et c'était en 2013, je crois. Donc à l'époque, autant dire qu'il y avait non seulement zéro option végane dans les supermarchés ou les grandes surfaces, mais en plus, quand le mot végane était prononcé, que ce soit à la télévision, dans les magazines, c'était systématiquement attaché au mot extrémiste. Donc il fallait vraiment se débrouiller. À l'époque, pour être végane, il fallait vraiment le vouloir. Et du coup, comme moi, bah, comme je l'ai exprimé, je suis très gourmande et je suis vraiment une bonne vivante. J'avais envie de pouvoir à la fois respecter mes valeurs et à la fois bah, continuer à me régaler. C'était hors de question que je me prive. Donc j'ai commencé à cuisiner. Des trucs vraiment très très pas ouf hein. Vraiment mes débuts en cuisine c'était vraiment méga basique mais ça m'apportait quand même du plaisir, c'était quand même gourmand et je me suis dit ah mais en fait si j'arrive à montrer qu'on peut manger 100% végétal donc sans faire de mal aux animaux et que ça et qu'on peut quand même se régaler de la même manière. Bah là, pour le coup, j'aide beaucoup plus d'animaux d'un coup. Et ça a été le début de mon chemin professionnel et vers cette reconversion vers la cuisine. Ça a été, c'est passé par des associations, pas mal. Je travaillais avec, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelait, Well Farm, je crois, un truc comme ça. Ils faisaient des événements où ils allaient, par exemple, diffuser un documentaire. Et moi, en fait, j'allais faire 100 muffins vegan, les distribuer gratuitement. Et les gens étaient tous bluffés parce qu'il n'y a aucune manière de différencier un muffin vegan d'un muffin qui ne l'est pas. Ils étaient étonnés. Et du coup, bah, moi, je me disais, bah, j'ai gagné. Je leur ai montré que bah, voilà, tu peux faire des choses super sans aucun produit qui exploite les animaux. De là, j'ai été embauchée par la suite dans un restaurant parisien. Qui s'appelle Sol Semilia, qui est un restaurant bio, vegan, sans gluten, assez pionnier au niveau de l'aspect santé, de la composition des assiettes, de l'aspect nutrition. J'ai appris énormément, énormément de choses. Je suis devenue là-bas experte des super aliments. Donc les super aliments, tout le monde en connaît. Hein. Par exemple, la spiruline, les graines de chia, les graines de lin, les baies de goji, l'ortie, voilà, tout ça, ce sont des super aliments. Et donc, c'est un restaurant dans lequel on travaillait ces produits et on faisait des assiettes santé. Et ce qui était super, c'est que c'était un resto où, en fait, on n'avait pas de plat à la carte. C'était impro, tous les jours. Donc, tous les matins, j'arrivais à 8h30 et j'ouvrais les frigos, je sortais les produits, évidemment que des légumes bio et de saison. Et c'était vraiment un terrain de jeu formidable. Et j'ai pris vraiment du galon là-bas, à la fois en apprenant à gérer une cuisine, en apprenant à gérer un budget, en apprenant à gérer une équipe. Et en fait, je suis passée en quelques mois de cuisinière à assistante de la chef, puis chef. Et ça a été une super chouette expérience. Et en même temps, la restauration, c'est quand même particulier comme expérience. Et c'est pendant cette période-là de ma vie que j'ai rencontré mon amoureux, Maxime. Et en fait, c'est allé très 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 vite entre nous. Ça a été une espèce d'évidence. Encore une fois, un grand J'ai l'impression, en le racontant, que ma vie, c'est beaucoup des gros déclics et des gros chamboulements d'un coup. Et ça a été ça, en fait, hein, rencontrer Maxime, ça a été un coup de tonnerre total. Et en quelques mois seulement, j'ai quitté la personne avec qui j'étais, j'ai déménagé, j'ai emménagé avec lui, je suis tombée enceinte. Voilà, ça a été très rapide. Et c'est vrai que bah, la grossesse a tout changé. Moi, à la base, j'avais vraiment prévu de ne pas avoir d'enfant. C'était mon projet. Mon projet, c'était d'avoir une vie voilà, tranquille où je n'expérimenterais pas la maternité. Et puis, en fait, encore une fois, ça m'est tombé dessus et ça a été une évidence. À ma plus grande surprise, je pense que j'étais la première personne étonnée. Et je me souviens de l'annoncer à mes meilleures amies et qu'elles hallucinent, quoi, qu'elles se disent, mais attends, mais jamais de la vie, si on m'avait dit que tu serais la première d'entre nous à être enceinte, mais jamais j'aurais cru. Et l'arrivée de cet enfant dans ma vie a été un énorme moteur. Parce que je voulais pas d'enfant, d'une part, parce que j'avais envie de vivre ma vie, entre guillemets, tranquille, sans me consacrer à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et voilà, à mon couple à la limite, mais c'est quand même la maternité, c'est quand même un don de soi énorme. Et en même temps, il y avait aussi des convictions écologiques voilà, on est beaucoup sur la planète, que avoir un enfant, bah, mine de rien, ça a un impact écologique énorme. Et je me suis dit, d'accord, j'accueille cet être dans ma vie, mais par contre, à partir de maintenant, j'ai un moteur surpuissant en fait, qui est de protéger son monde. Et de faire en sorte que plus tard, quand il sera adulte, pour l'instant, comment c'est parti, j'ai un peu peur qu'un jour il me dise, mais c'est la cata, maman, là quand même, ce qui se passe en ce moment dans le monde et sur voilà avec la planète, tout ça. Et j'ai pas envie qu'il puisse me dire, mais tu savais et t'as rien fait. Et c'est un truc qui m'accompagne depuis. Bah, il a 6 ans maintenant, donc depuis un peu plus de 6 ans, déjà pendant la grossesse, de me dire je veux que mon enfant il sache que j'ai tout fait, que tout ce que je savais sur voilà comment on peut préserver notre planète, comment on peut avoir un impact positif sur ce monde, sur les autres êtres vivants, et ben qu'il sache que j'ai fait vraiment de mon mieux. Et ça c'est un truc qui me booste en fait dans mon travail. C'est en partie ce qui a fait que du coup j'ai quitté la restauration pour me consacrer à l'enseignement en fait, à créer des ateliers, des cours de cuisine, transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, que ce soit dans mon parcours personnel, dans l'alimentation ou professionnel. Et aujourd'hui du coup j'ai créé une formation en ligne dans laquelle j'ai envie de mettre tout ça. Plein d'amour, plein de joie, plein de gourmandise, plein de conviction aussi, de la foi, de l'espoir, du courage et d'aider les personnes à trouver leur moteur, ce qui fait que elles ont envie aussi bah, d'adopter cette alimentation qui les soutient, leur permet de s'épanouir et d'être la personne qu'elles veulent être. Et de participer à créer le monde dans lequel elles ont envie de vivre. Et ouais, voilà.
Et toi, ton parcours avec l'alimentation, peut-être qu'il y a eu des événements particuliers dans ta vie, des déclencheurs aussi, des
C'est
choses
vrai.
importantes.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi une chose qui est présente dans mon approche de la cuisine et de l'alimentation. C'est que mon rapport à la nourriture et mon rapport à l'action de manger n'a pas du tout, toujours été ni simple, ni une source de soutien et de bien-être comme ce que je partage aujourd'hui. Au contraire, à l'adolescence, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé par... Je ne saurais pas dire en fait pas comment ça a commencé, mais ce que je me rappelle vraiment bien, c'est qu'à l'âge de 14 ans, Moi qui avais toujours été mince, d'un seul coup, j'ai pris 15 kilos en quelques mois. Et mon corps a vraiment complètement changé. J'ai eu énormément de mal à l'accepter. Et puis, bah, c'était vraiment des années où il y avait... Mais c'était les années Kate Moss et compagnie. En fait, toutes les idoles, toutes les représentations de femmes qu'on avait à la télévision, dans les magazines, c'était une mise en avant de la maigreur énorme. Et je pense que ça, toutes les personnes qui ont grandi dans les années 2000-2010 en ont souffert, de ce manque de représentation de personnes qui ont des corps ne serait-ce que normaux, ou même sains, parce qu'il y avait vraiment, à l'époque, ce qui était considéré comme beau, c'était la maigreur, quoi. Et moi, d'un seul coup, je ressemblais plus du tout au standard de beauté, j'arrivais plus du tout à accepter mon corps. Et puis, bon, bah voilà, je pense que l'adolescence aussi est passée par là et c'était compliqué mentalement, émotionnellement. Et la nourriture est devenue, je sais pas si on peut vraiment dire un refuge, mais en tout cas, ça a été une manière de réguler mes émotions, clairement. Je me suis mise à faire des crises de ce qu'on appelle l'hyperphagie. C'est malheureusement pas encore très connu. On a tendance à penser que les troubles du comportement alimentaire, c'est soit l'anorexie, soit la boulimie. Mais en fait, ce qu'on appelle trouble du comportement alimentaire, c'est dès lors qu'on a une relation qui est troublée à la manière de manger, de s'alimenter, comment on se sent quand on mange, comment on se sent par rapport à la nourriture qu'on mange, au type d'aliments qu'on mange. C'est vraiment un spectre qui est très large, en fait. Et l'hyperphagie, en l'occurrence, c'est le fait d'avoir des crises de compulsion alimentaire où on va manger des grandes quantités de nourriture, en général de manière rapide et sans conscience qu'on est en train de le faire, ou alors sans contrôle, en fait, en tout cas. Et bah moi, c'était devenu un rituel, en fait, hein. Tous les soirs, quand je rentrais du lycée, j'avais une crise et ça débouchait vers de la boulimie, parce que je me suis dit, bah, si je continue comme ça, en fait, je vais finir par être obèse. Vu que, évidemment, les aliments de crise en général, c'est des aliments très gras, très sucrés, pas du tout des aliments sains, plutôt des aliments, en tout cas, plutôt des aliments qu'on s'interdit ou qu'on a tendance à diaboliser ou voilà, à catégoriser comme étant pas bon. Mais bon, là, c'était le cas, hein, en l'occurrence. J'ai eu la chance d'avoir une petite sœur qui a pris ma défense, en fait. C'est ma sœur, en fait, qui a dit à ma mère que je faisais ça, que j'étais malade, en fait, et que j'avais ce trouble. Et donc, ma mère m'a envoyée voir un psy. Je ne sais pas à quel point ça m'a réellement aidée, ou si c'était simplement le fait qu'on s'occupe un peu de moi. Ça a permis de... J'ai arrêté la boulimie, mais le trouble de l'hyperphagie est resté présent dans ma vie pendant presque 10 ans, et surtout toutes les pensées, en fait, qui allaient autour, c'est-à-dire il y a des aliments qui sont bien, d'autres qui sont pas bien, cette notion de restriction, le fait de ne pas être capable de ressentir mes sensations de faim et de satiété, j'avais vraiment tendance à manger, bah déjà quasiment tout le temps. Et surtout de ne pas savoir m'arrêter, en fait, de manger toujours jusqu'au point où j'avais mal au ventre. J'étais globalement pas bien dans mon corps, en fait, non plus. Et une des choses qui a fait que ça a pu changer, parce qu'aujourd'hui j'ai une relation méga épanouie avec, avec la nourriture et avec la cuisine et l'action de manger. La première pierre à l'édifice vers la guérison, c'était le végétarisme. Parce que pour la première fois de ma vie, il y avait quelque chose qui me rendait fière vis-à-vis de mon alimentation. En fait, ça m'a apporté un sentiment d'épanouissement pour la première fois, où je me disais, en fait, peut-être que là, j'ai mangé voilà, un paquet de chocobons en une fois, que j'ai dégommé la moitié du pot de Nutella, etc. Mais je ne mange plus d'animaux. Quand je regarde un animal dans les yeux, je me sens pas coupable, en fait, et ça m'a libérée, je pense, d'une forme de culpabilité. Et pareil, quand je suis devenue végane, c'était un niveau encore au-dessus, où là, je me disais, Bah, à l'époque, pour moi, c'était plus ou moins interdit de manger des, par exemple, des Kit Kat, des trucs comme ça. Et là, en fait, je me disais, ok, je me retiens de manger un Kit Kat, pas uniquement parce que c'est du sucre et que je vais grossir, mais aussi parce qu'en fait, ça me fait plus de bien de pas le manger que de le manger, parce que quand je le mange pas, je nourris mes valeurs et ça me nourrit en fait ailleurs. Il y avait une autre forme en fait, ça a commencé à transformer mon rapport à l'alimentation et j'ai compris qu'en fait, se nourrir, c'est pas juste mettre des aliments dans son corps. Ça passe aussi par comment je me sens quand je mange et quels sont les sentiments que je ressens vis-à-vis de la nourriture, quelles sont mes pensées autour de tout ça en fait. Et ça a beaucoup changé. Et ensuite, la grossesse là-dessus. Ça a été vraiment le déclic parce que au début de ma grossesse, j'avais très très peur de devenir obèse et de jamais. Alors, je précise que j'ai aucun problème avec les corps gros, que je trouve les corps gros vraiment aussi beaux que les corps minces. Mais en tout cas, à l'époque, c'était une peur pour moi de devenir très grosse et de ne jamais réussir à mincir après. Et du coup, j'ai fait l'erreur de faire un régime en fait en début de grossesse qui a eu pour conséquence de me mettre dans un état de santé fragile et ça m'a même fait développer des carences et tout ça. Et donc à un moment donné, il a fallu que je lâche en fait, c'était trop. Il y avait à la fois une fatigue due aux carences, à la fois bah, le fait de devoir accepter de devenir mère alors que c'était pas mon projet. J'ai dû arrêter de travailler à cause de mon état de santé, c'était assez bouleversant. Et il fallait qu'il y ait un truc qui lâche. Et je me suis dit, ok, tant pis. En fait, si je dois prendre 30 kilos, je prends 30 kilos. Je vais vivre une grossesse dans ma vie. Fuck, en fait, c'est parti, quoi. Et en fait, c'était assez dingue parce que le fait de relâcher ça, eh ben, c'est ça qui m'a appris à m'écouter réellement. C'est en lâchant le contrôle, ou en tout cas une espèce de fausse recherche de contrôle, que j'ai découvert que mon corps était capable de se réguler tout seul, en fait, sans que mon mental vienne décider à sa place quand est-ce que j'ai fini de manger ou quand est-ce que j'ai faim. Et en fait, c'est vraiment la grossesse qui m'a reconnectée avec mes sensations de là, j'ai faim, donc je mange. Là, j'ai plus faim par contre, donc j'arrête de manger. Et en fait, étrangement, ça, j'ai pas du tout pris de poids. Et aujourd'hui, j'ai une relation méga intuitive avec l'alimentation. Et d'ailleurs, c'est rigolo puisque bah là, je suis enceinte actuellement, donc je pensais pas revivre ça, mais si, en fin de compte. Et c'est du coup ma deuxième grossesse végane. Et en fait, ouais, ça m'a permis vraiment de découvrir que mon corps avait sa propre intelligence, qu'il était capable de me demander ce dont il avait besoin. Et de me dire stop et et j'ai pu découvrir les signaux qui sont hyper clairs en fait qui nous envoient. Alors c'est un process, hein, ça prend parfois du temps, mais c'est aussi quelque chose effectivement que je mets qui fait partie intégrante de ma relation à l'action de manger et de cuisiner aussi, parce que pour moi c'est très lié en fait les deux. Et quand je cuisine au service de ma faim ou de mon corps ou de ma gourmandise, avec vraiment cette intention de nourrir, pas juste de ne plus avoir faim ou de m'apporter des nutriments, mais comme quelque chose vraiment d'holistique et de complet, d'entier et de. Ouais, comme une sorte d'écosystème en fait. J'aime vraiment considérer notre corps, notre organisme, notre être en fait, comme un écosystème avec plein de différents éléments qui s'entremêlent et qui se répondent les uns les autres. L'idée est de trouver là-dedans une forme d'harmonie, en fait, où on peut se répondre et communiquer avec fluidité. Et ouais, ça a été une belle aventure, un beau chemin qui continue, hein, je continue toujours d'apprendre, je continue d'observer les endroits où il y a des traces. De ces. Bah, j'ai grandi comme ça, je me suis construite comme ça avec des croyances sur mon corps, sur la nourriture. Et là, par exemple, j'observe que encore aujourd'hui, ça reste la nourriture une manière d'exprimer mon amour, une manière de recevoir de l'amour aussi et un marqueur de la récompense. Et je l'observe sans juger. Tu vois, je me dis, ah ok, c'est vrai que je le vois par rapport à mon fils, par exemple, où j'ai vraiment tendance à le féliciter en lui proposant des trucs, tu veux qu'on fasse un gâteau, je vais faire des pop-corn. Enfin, j'ai vraiment tendance à, tu vois, beaucoup lui montrer que je l'aime à travers des friandises ou des petits plats, des choses comme ça. Et je me dis, ah, ok, je remarque que j'ai ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais c'est intéressant, je trouve, d'arriver à porter un regard sans jugement sur soi. Et c'est aussi des choses que j'essaie du coup de transmettre aujourd'hui dans mon métier, quoi, dans ce que j'ai envie d'apporter au monde en tout cas.
Trop bien. Un beau parcours. Et aujourd'hui, tu penses que tous ces TCA sont derrière toi? Tu penses qu'on peut guérir des TCA?
Alors, je pense vraiment hyper sincèrement qu'on peut guérir des TCA. Moi, j'aime bien poser le mot de guérison sur mon propre parcours personnel. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir guéri dans le sens où je n'en souffre plus. Je pense que chacun, chacune a sa propre définition de la guérison. Moi, je la place à cet endroit-là. Aujourd'hui, ma relation à la nourriture et à la manière dont je m'alimente n'est pas une source de souffrance, au contraire. C'est devenu une alliée pour moi. C'est devenu, bah, comme je le disais, un outil d'observation, du coup un outil de connaissance de moi. À travers mes envies, à travers parfois même mes fringales, parce que bien sûr je peux avoir des compulsions encore maintenant, mais sauf que la différence c'est que ça ne me fait pas souffrir, c'est que je les accueille et que je les observe et qu'elles me disent des choses sur moi. Et j'apprends d'elles. Je peux donner un exemple concret. Par exemple, pendant la grossesse de mon fils, j'étais obsédée par l'idée de manger des moules. Mais vraiment, alors que j'étais végane depuis déjà 7 ans, je crois. Ça faisait 7 ans que j'avais pas mangé de fruits de mer. Je comprenais pas, mais d'où ça vient cette histoire de moules? Et je me suis dit, bon, bah voilà, je suis enceinte, j'ai envie de manger des moules, je vais aller manger des moules, quoi. Donc on est parti dans la baie de Somme pour trouver un restaurant qui cuisinait les moules qui étaient pêchées. Vraiment sur le bord de mer et qui était cuisiné directement et tout ça. Et en fait, on a découvert juste après que j'avais plein de carences en fait. Et notamment, j'avais développé une carence en iode et en B12. Or, bah, les moules sont une super source d'iode et de B12. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, mon corps me l'a dit. Il me l'a exprimé, il me l'a demandé. Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, en apprenant justement à s'observer, à mettre beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur en fait dans tout ça, on peut non seulement guérir notre relation à l'alimentation, à la nourriture, encore une fois, à l'action de manger, c'est-à-dire comment je me sens quand je mange et comment je mange, on peut non seulement guérir, mais en plus de ça, en faire vraiment une alliée et un outil en fait au service de notre bien-être, un outil qui nous aide à prendre soin de nous. Et moi j'observe beaucoup, bah voilà, par exemple, si ça m'arrive d'avoir des moments où j'ai grave envie de manger plein de bonbons, et ben je vais me poser la question, déjà premièrement je vais m'autoriser à manger des bonbons, et deuxièmement je vais me dire, ok, qu'est-ce qui peut faire que là d'un seul coup c'est vraiment à ce point-là j'ai envie de manger beaucoup de bonbons? Est-ce que ça vient d'une fatigue? Est-ce que mon corps essaye de me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un besoin qui essaie de s'exprimer à travers ça? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres formes de nourriture qui ne soient pas alimentaires qui peuvent me permettre de nourrir mon besoin? Tu vois, je vais me poser ce genre de questions-là. Ça, c'est des choses que j'ai à cœur de porter à travers à la fois mon histoire et puis voilà ce que je mets dans mon métier, parce que ben je trouve ça hyper riche et qu'en fait manger c'est tous les jours, c'est une action qui à la fois est anodine, quotidienne et en fait qui peut être méga puissante et méga justement guérisseuse en fait.
Donc toi aujourd'hui tu as réussi à transmuter une souffrance en un moteur.
Ouais, je dirais en un moteur et même presque en carburant, tu sais. Je pense qu'avant, effectivement, j'ai beaucoup utilisé la nourriture pour me punir, d'une certaine manière, tu vois, pour me faire du mal en fait, ou pour peut-être aussi que ça régulait mon système nerveux de faire ça comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui allait alimenter des pensées très négatives à mon sujet. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est dénué de ça, c'est détaché. En fait, même si parfois je vais pas manger comme j'aimerais manger ou d'une manière où je sais que c'est comme ça que ça fait du bien à mon corps que je mange, ben, les pensées qui me faisaient du mal, elles sont plus attachées en fait. Je les entends même plus en fait. Donc soit elles sont plus là, soit elles sont très très loin. J'y crois plus en tout cas. J'ai plus la croyance que je me fais du mal quand je mange pas hyper sain ou voilà quoi. En tout cas, je pense vraiment qu'on peut, si on est bien, parfois on a besoin d'aide. Hein. Moi, ça s'est fait avec mon parcours et j'ai beaucoup de chance que ça soit fait comme ça. Mais parfois, on a simplement besoin d'aide et que la bonne personne nous apporte les bons outils au bon moment pour que justement on puisse opérer des petites transformations qui vont porter leurs fruits, qui vont justement nous permettre d'arriver en fait à transcender presque, transmuter en tout cas, quelque chose qui nous fait souffrir en une force ou une mission ou juste tout simplement quelque chose qui nous fait plus souffrir.
Trop bien. J'entends beaucoup dans ce que tu partages, mais j'imagine que ça, tu nous en parleras dans le prochain épisode. J'entends beaucoup de ramener du sacré.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Je pense que ça fait partie des choses qui ont. Il y a beaucoup de ces mots sacrés, magiques, rituels. Il y a beaucoup d'émerveillement, en fait, dans ma relation à la nourriture. Et je pense que ça passe effectivement par cette notion de sacré.
C'est vrai que je me souviens de la retraite qu'on a pu animer ensemble, où on voulait vraiment ramener du sacré dans les pratiques physiques, dans les pratiques simples du quotidien, et que c'est une valeur commune qu'on peut avoir à vraiment ramener du sacré dans la vie et ramener de la conscience sur les choses qui peuvent paraître anodines et sur lesquelles on a besoin de ramener de la conscience, parce que le fait de se nourrir, comme tu as pu le dire, ça passe pas uniquement par la nourriture, ça passe par tout ce qu'on fait dans notre vie, et que c'est important de sacraliser les choses qu'on fait parce qu'elles ont une très grande importance et un très grand impact sur notre équilibre physique, mental et émotionnel.
Ouais, absolument. Et c'est vrai que le mot sacré, il y a des gens qui, ça peut les rebuter un petit peu, mais je trouve qu'il y a plein de manières de mettre du sacré. Que le sacré, ça peut être très sérieux, ça peut être presque religieux dans le sens dogmatique ou dans le sens codifié ou dans le sens où il va y avoir une véritable dévotion, un véritable engagement. Mais ça peut être aussi juste super fun en fait. Moi, c'est en tout cas quand je parle de pleine conscience, j'essaye vraiment de l'amener comme quelque chose de divertissant, quelque chose qui est méga nourrissant en fait. Et cette notion, ouais, de remettre du sacré, elle peut prendre plein de formes différentes selon la personne, selon ce qui est sacré pour elle et comment s'exprime sa propre vision de la sacralité en fait.
Trop bien. Eh ben, je pense qu'on va explorer tout ça dans le prochain épisode. J'ai déjà hâte de l'écouter. Et je
Merci.
te remercie pour nous avoir partagé ton parcours aujourd'hui, si riche et si inspirant. Et pour l'avoir partagé avec autant d'authenticité et de simplicité.
Merci à toi pour cette invitation. Et merci à toutes les personnes qui vont écouter.
Et si tu avais un message à passer par rapport à tout ce que tu viens de dire, une petite synthèse, un petit mot, une petite phrase pour toutes les personnes qui écoutent, ce serait quoi?
Moi, j'aime beaucoup parler de bienveillance. C'est aujourd'hui une notion clé, à la fois dans ma vie et à la fois dans ce que j'ai envie de transmettre et d'apporter au monde. Et pour moi, la bienveillance, c'est vraiment cette idée de faire de son mieux en ayant la conscience que notre mieux est une valeur qui change d'un jour à l'autre et parfois même d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, faire de mon mieux, c'est pas la même chose que faire de mon mieux demain ou hier, parce que justement, on est des êtres vivants complexes, on est des véritables écosystèmes, et on vit dans une société en mouvement et qui a plein d'éléments autour de nous à prendre en considération. Et pour moi, mettre de la bienveillance dans sa vie, c'est prendre aussi conscience de ça, que parfois, en fait, faire de notre mieux, c'est moins. Que ça ne veut pas forcément faire notre maximum en fait. C'est faire de notre mieux dans l'instant. Et pour moi, c'est ça, remettre de la bienveillance dans sa vie et dans son alimentation. Et du coup, ce que je peux dire aux personnes qui auront écouté jusqu'ici, c'est que je leur souhaite de mettre plus de bienveillance dans leur vie, plus de douceur. Et je suis sûre que ça sera déjà un très beau premier pas vers une vie plus belle, plus épanouissante et un monde plus beau.
Super. Merci beaucoup, Morgane.
Merci à toi, Adil, pour ton invitation.
Avec plaisir et à tout bientôt pour notre prochain épisode.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu, que l'histoire de Morgane vous a inspiré, parce qu'on se retrouve tout bientôt pour le deuxième épisode de notre triptyque dédié à la tambouille d'amour. Et dans ce deuxième épisode, elle nous partagera sa manière de travailler, ses convictions et tout ce qu'elle propose professionnellement et surtout pourquoi elle le fait. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vous dis à tout bientôt au cœur du Lotus.